et pour aller chercher un truc. Et il entend, il continue à entendre Rick Astley à chanter la chanson. Et il lui a simplement dit, bon bah je ferme la porte, tu te mets devant le micro, je lance et je t'enregistre. Oui, oui mesdames et messieurs, Rick Astley a été le premier à ricroller quelqu'un. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir. Eric Astley, même encore aujourd'hui, c'est devenu une icône pop. Il reprend des choses, il fait des scènes, même avec les Foo Fighters, il reprend d'autres morceaux de d'autres artistes. En plus, c'est quand même un homme qui est multi-instrumentiste. Il s'amuse, il kiffe sa vie. Il kiffe sa vie et je pense que, et j'espère que ça a transpiré au travers de cette émission. Eh bien, voilà, kiffez la vie, les amis. Amusez-vous. Et faites rire les autres, c'est très 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 important. Alors voilà mes amis, cette émission consacrée aux chansons qui sont devenues des mèmes se termine. Je suis heureux et vraiment content d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère aussi que vous avez bien ri, que vous vous êtes bien amusés. Moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. On se dit à la semaine prochaine. Tchou les amis!
RJR 106.1. Ceci est un message de l'établissement français du sang.
De près ou de loin, je suis sûr que vous connaissez des personnes atteintes de cancer, de maladies auto-immunes.
Savez-vous qu'une grande partie de ces malades a besoin de plasma pour vivre? Les besoins en médicaments issus du plasma ne cessent d'augmenter.
Nous avons vraiment besoin de vous.
Pour donner à la Maison du Don de Reims, rendez-vous sur notre site internet dondesang.fr.
Salut, c'est JL. Retrouvez-moi tous les samedis, 18h-19h, sur RJR pour RJR Dance. RJR Dance, vous allez être accro à cette émission. Les dernières news house électro et les meilleurs classiques sont dans RJR Dance, chaque semaine sur RJR, le samedi, 18h-19h.
RJR Dance. Artiste, podcasteur, youtubeur, entreprise, besoin de son? Louez les studios de RJR. Infos, tarifs et réservations au 0326 36 11 11 ou par mail contact@rjrradio.fr.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR, Cyrano.
Ma jolie, tu connais par ici la monnaie. Viens pas t'embêler, tu vas te faire mêler.
Rosers.
It's for my own to play.
Les artistes régionaux ont leur radio. RJR. RJR, Radio Jeune Reims.
Aujourd'hui, dans les chroniques de PVL, Patrick reçoit
Émilie, Carmela et Mathias, le trio Thaisis, pour leur album Porqué 6. Un album enchanteur mélangeant les sonorités de leur univers multiple, nourri au tango, d'ailleurs et d'ici. Au classique, au jazz, à la chanson française, ils réinventent une nouvelle musique entre hier et demain, croisement de la tradition et de la création. Ils appartiennent à cette jeune génération qui ose l'impossible en dépoussiérant les étagères du temps pour réinventer demain, aujourd'hui. Avec le trio Thaisis, j'ai peut-être demandé de vous présenter, de me rappeler vos noms, etc. Je sais qu'il y a Camélin qui joue du bandoneon, parce que ça me rappelle Louis Gélu. Donc vous me direz, c'est la même chose, vous avez été à la même école, et si c'est toute petite, on peut déjà démarrer comme ça, que vous avez eu envie de faire du bandoneon, parce que apparemment c'est un instrument qu'on redécouvre maintenant, et je pense que vous aussi, vous allez faire des adeptes du bandoneon, si vous enseignez, comme Louise, non?
Eh bien, alors c'est un instrument qui c'est pas particulièrement aujourd'hui qu'on le redécouvre, c'est un instrument qui existe depuis 100 ans, plus de 100 ans, hein, bien plus de 100 ans, mais c'est avant tout un instrument qui, en Argentine, en effet, dans les années 90, il y a eu un moment un peu où, où le tango est passé de mode. Hein. Mmh. 80, 90, ça a été vraiment des années terribles pour le tango. Et du coup, pour le bandoneon, parce que ça reste l'instrument un peu du tango, emblématique, ouais. du tango.
Moi, c'est comme ça que je l'ai...
Et du quoi ?
Et des clowns, c'est comme ça que...
Bah, le bandoneon, alors justement, je pense qu'on se représente avec les clowns, c'est plus
oui,
les
parce
petits
que,
concertina.
C'est, petit, là. Ouais,
c'est pas le bandoneon.
Comme
Louise, vous faites
l'alcool.
On est une grande, grande famille. Mais du coup, voilà, donc pour ce qui est du bandoneon, il se trouve que depuis les années 2000 quand même, donc ça fait un bon bout de temps, ça fait 25 ans maintenant, qu'il y a vraiment un renouveau dans le tango, et il y a énormément de musiciens de tango et de bandoneonistes qui apparaissent, qui font surface, autant en Argentine qu'en Europe. Donc heureusement, c'est pas un instrument qu'on redécouvre qu'aujourd'hui, c'est un instrument qui a une grande histoire et qui a un renouveau depuis près de 25 ans. Mais aujourd'hui, on est dans un moment formidable où il y a plein de propositions, plein d'interprètes de ce fabuleux instrument. Et en effet, je suis professeure aussi au conservatoire de Gennevilliers, où on a la possibilité de voir passer plein de nouvelles générations qui ont envie d'apprendre cet instrument. Donc ça, c'est vraiment une réussite et un immense plaisir et beaucoup d'espoir pour l'avenir.
Et vous êtes Carmela.
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 Absolument. Voilà.
Et donc vous êtes le pianiste.
Moi j'ai vu le violoniste de l'ensemble.
Oui, le violoniste.
Violoniste du trio Tassis. Mmh. Oui.
Et vous l'instrument ça va, il y a pas de problème, on le connaît depuis longtemps.
On le connaît.
Mais c'est un instrument difficile à jouer. Moi je sais que mon père un jour voulait que j'en joue, ça a pas duré longtemps.
Oui, c'est un instrument qui demande pas mal d'années pour l'appréhender et pour l'apprivoiser. Mais c'est vrai que bon, évidemment le violon est utilisé dans beaucoup de musique, naturellement la musique classique, mais énormément de musique populaire, et dans le tango et dans les nouveaux répertoires dont parlait Carmela, c'est vrai qu'il a une place très importante, ouais, depuis toujours, et avec des particularités stylistiques assez particulière,
ouais.
Oui.
Avec plein de variétés, on va le voir, aussi bien d'ailleurs pour le bandoneon que pour le violon, que pour le piano.
Oui, c'est vrai. Il y a des modes de jeu très particuliers qui font écho à des imitations de sons de percussion, à des bruitages assez particulier, et aussi une manière d'appréhender l'expressivité et la rythmicité de l'instrument qui diffère un peu d'autres musiques, notamment de la musique classique. Mais c'est vrai qu'il y a une grande richesse aujourd'hui dans toutes les propositions nouvelles, et voilà, on essaye de s'inscrire avec le trio Tassis dans ce
courant, dans ce renouveau de...
Oui, tout à fait.
Mais on va en parler. Et donc, vous êtes la pianiste, alors si...
Oui, tout
voilà.
à fait.
Après, vous me direz pourquoi, justement, le choix de ces instruments. Pourquoi pas un sax, pourquoi pas une batterie non, je...
Alors, la personne qui peut le mieux...
Ou une contrebasse, ça aurait pu
choix...
être.
Oui, tout à fait, parce que une des particularités de cet ensemble, dans le cadre du tango, c'est le fait que qu'il n'y ait pas de contrebasse, et que donc l'écriture de piano diffère légèrement de l'écriture habituelle, on va dire plus courante dans le tango, étant donné que là, la main gauche du piano n'est pas doublée par la contrebasse, ce qui fait que dans le travail, on doit inventer peut-être de nouvelles façons de faire sonner la section rythmique, puisqu'on se retrouve un peu seul en tant que pianiste, mais c'est très intéressant. Et là, tout ça sort surtout de l'imagination de Mathias, qui est la plume du
groupe,
du trio. Et c'est autour de notre rencontre qu'il a décidé d'écrire ce répertoire-là, avec l'inventivité que ça suppose dans le cadre d'une formation qui n'est pas si traditionnelle que ça dans le tango.
Parce que dans le tango, je crois que c'est un bandoneon, peut-être une guitare, puis un violon ça, peut-être, mais un piano, enfin un piano, oui, peut y arriver aussi. Je ne suis pas spécialiste du tango, je préviens tout de suite. Donc,
alors le tango, allez... fort heureusement, il n'a pas une
spécificité,
formation,
contrairement
mais
à ce qu'on pense.
Il y a des instruments, il y a des types de formations qui sont typiques, on va dire. Bandoneon guitare, on va le rencontrer beaucoup. Orchestre typique, ce qui serait 4 bandoneons, 4 violons, un piano, une contrebasse, le trio bandoneon contrebasse, piano, par exemple, aussi une formation typique. Enfin, il y en a énormément, on va pas toutes les énumérer parce que c'est infini un peu.
Ouais.
Mais par contre, cette configuration piano, bandoneon, contrebasse, n'importe quoi.
Guitare. Piano, violon.
Violon.
Je vous trouve, c'est vous qui me trouvez.
C'est pas courant. D'ailleurs, on n'en connaît pas trop d'autres. Voilà, comme ça, j'ai pas d'autres références.
Un trio traditionnel.
Ah bah voilà. Voilà, mais du coup, il y en a fort peu. Et du coup, il y a tous ces enjeux et ces chouettes voies d'exploration que ça ouvre de pratiquer une formation qui est pas si courante que ça. Mais le piano, le violon et le bandoneon sont dans d'autres formations toujours des instruments présents dans le tango. Enfin, très 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 souvent, on les retrouve. C'est vraiment des instruments typiques du genre.
Pendant que je vous ai, puisque apparemment, je crois que c'est vous la spécialiste du tango.
Ah bah non, on est tous les trois spécialistes du tango. Donc, mais vraiment, c'est le langage commun qu'on partage.
J'ai lu quelque part que le tango était une musique très codifiée.
Alors oui, on peut... absolument. En fait, ce qui est assez passionnant avec le tango, c'est que c'est un langage qui a un pied dans l'oralité et un pied dans la musique écrite. Et du coup, ce qui est vraiment... le code, il vient autant de la partition que de l'oralité. Et donc, d'années de pratique ensemble, d'années d'écoute et d'années de formation qui nous permettent de savoir que telle chose, on va la jouer plutôt comme ça ou plutôt comme ça, tel aspect, tel passage. Et c'est une codification qui vient par la référence, par les références communes qu'on a, et un langage comme ça qu'on partage.
Et d'improvisation aussi, comme au jazz?
Non. L'improvisation, on l'envisage pas tout à fait de la même façon que dans le jazz.
Peut-être il faut elle aussi qu'elle soit codifiée, c'est-à-dire prévue avant.
Pas forcément prévue avant, mais par contre, on a peut-être quelque chose. On a une liberté vis-à-vis d'un solo, par exemple, de pouvoir aller un peu où on veut, mais ça reste. C'est pas le système d'une grille qu'on va faire tourner, qu'on va tous jouer les uns après les autres dessus. C'est vraiment, on va partir, on va faire des espèces de broderies améliorée, on va chacun développer notre style dedans, mais on peut pas parler de la même type d'improvisation que dans le jazz. Je pense que ce serait un peu oui, c'est une forme d'ornementation, un peu comme le baroque. Il y a beaucoup faire beaucoup de parallèles entre le tango et la musique baroque, peut-être.
Il y a une espèce de même consonance
esthétiquement, mais en tout cas dans comment on appréhende une musique qui a à la fois un aspect écrit et un aspect oral, avec une codification orale et des points de rencontre entre les musiciens spécialistes, où on va savoir qu'on va aller dans telle direction parce qu'on connaît autant oralement que que l'aspect écrit de la musique. Là, je pense qu'il y a pas mal de connivence.
Ouais.
Peut-être plus qu'avec le jazz.
Ouais.
Même.
Encore que. Votre avis?
Oui, c'est vrai que cet aspect de, c'est surtout la question de l'ornementation qui est très très importante dans l'improvisation.
Des arrangements aussi, puisque je crois que c'est vous qui les faites.
Oui, alors il y a une partie très écrite, assez précisément écrite dans l'arrangement. C'est vrai que dans notre formation, dans le trio, on a choisi l'aspect vraiment assez
libre.
Oui, puis non, mais assez fixé sur la partition au niveau du déroulé de la musique. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de section libre où il y a des improvisations complètement libres. C'est quand même relativement fixé dans
l'écriture.
Ouais. C'est vrai qu'il y a une très très grande part de liberté dans l'appréhension d'une partie solo, par exemple. Ce que disait Carmela, c'est que c'est l'ornementation justement autour de notre pôle qui sont fixés sur la partition, mais la partition devient une forme de conduite qui laisse libre cours à l'interprétation de l'instrumentiste et qui amène sa patte et sa personnalité dans le choix de telle ou telle ornementation ou telle ou telle phrasée, etc. Donc c'est la part de l'interprète est très importante dans l'inventivité et dans la recréation d'un imaginaire et d'un d'une nouvelle proposition, disons.
Ouais. À rajouter quelque chose là-dessus par rapport au piano. Est-ce que justement vous, par rapport à ça, c'est plus facile, plus difficile?
Moi, je suis une musicienne absolument fascinée par l'improvisation, mais je ne la pratique pas, malgré le fait que ce soit la majorité des musiques que j'écoute. Par contre, ce que je peux rajouter, oui, c'est les partitions écrites par Mathias, que ce soit les arrangements ou des compositions, parce que notre répertoire comprend également des compositions de Mathias qui sont vraiment, alors pour le coup, assez expérimentales et qui nous éloignent peut-être d'une certaine façon du tango. Oui, ce sont des partitions assez complexes. Dans lesquelles, en fait, il y a déjà énormément d'informations. Notre travail déjà de nous entendre et nous mettre ensemble sur cette quantité d'informations-là, elle est déjà un beau défi. Ouais.
C'est étonnant parce que le tango, si j'ai bien fait mes recherches, c'est une musique qui est née dans les faubourgs de Buenos Aires, donc une musique de pauvres. Ensuite, on va dire que Piazzolla lui a donné ses lettres de noblesse. Et je crois que vous lui apportez autre chose, c'est-à-dire que il en a fait une, pas dire une musique de bourgeois, mais une musique acceptable, entre guillemets, je trouve pas très bien le terme. Mais là, vous en faites une musique démocratique, même plus que le classique. Il y a plus de facilité à écouter vos morceaux, enfin le CD, le premier album, que parfois certains morceaux classiques qui sont plus ardus, plus complexes. Là, du fait du côté musique, je suis pas très très, j'ai quelques notions, mais pas plus. On sent qu'on n'importe qui peut l'écouter. C'est pas réservé à un public particulier. Parfois même à ce qu'on pense. Piazzolla avait sans doute pas cette idée-là quand il l'a fait.
Alors, c'est ce qui est très intéressant avec la figure de Piazzolla et avec le tango, peut-être en général, c'est qu'il s'est toujours nourri d'autres musiques, d'autres genres musicaux.
Comme le jazz.
Comme le jazz, tout à fait. Piazzolla a énormément intégré des concepts et des manières de penser la musique du jazz. Il a beaucoup, dans certains projets, beaucoup de passages très improvisés, justement. Le tango s'est aussi nourri avant lui et peut-être pour lui-même également de musique latine, de musique classique énormément. Piazzolla, avant d'être le grand compositeur de tango qu'on connaît, avait la volonté d'être un musicien classique avant tout. Donc il s'est énormément nourri de tout ça pour le mettre dans sa musique. Et c'est un peu notre ambition aussi, c'est de un peu décloisonner les genres et de pouvoir faire des formes d'hybridation, de ces points de jonction où on ne sait plus si on se situe dans telle ou telle musique ou bien l'étiquette est difficile à placer. Donc évidemment plein de références. Moi, j'essaie de chercher dans mon écriture beaucoup de références classiques.
Ouais.
Ouais, à Stravinsky, à Bartok, à cette formidable profusion de musique
plus contemporain, enfin plus moderne.
C'est ça, dans la modernité du début
Ravel,
du XXe siècle. Ravel aussi, dans certaines harmonies, dans certaines couleurs, dans certaines résonances aussi. Et le côté, la rythmicité un peu terrienne, vraiment très forte de Stravinsky et le côté folklorique de Bartok aussi m'intéresse beaucoup. Mais il y a aussi d'autres références, des références à la chanson française notamment.
Aznavour, vous citez.
Aznavour. Ouais. Oui.
Mais on pourrait même mettre Piaf, peut-être même un peu de Brel quelque part.
Eh bien, c'est peut-être des idées pour le...
Parce qu'il y avait Brel qui a fait un tango, qui n'a pas hésité avec ça.
Ouais.
Ou même d'autres chanteurs français de l'époque.
Oui, c'est vrai que c'est des sources d'inspiration et pourquoi pas des explorations pour.
Donc le zoo de tango, voilà, chercher le titre.
Ouais. Oui, tout à fait.
Ça serait marrant de voir comment vous le réinterprétez, comment vous le reformulez.
Est-ce que je peux.
Donc le zoo, ça vous parle. Vous êtes belge, vous aussi.
Non, mais j'ai déjà joué là-bas.
Ça va. Moi, je suis d'origine belge, donc on critique pas.
Ah non, j'adore la Belgique.
Une fois. Allez-y, dites.
Non, mais ça m'évoque quelque chose, ce que disait Mathias et ce que vous disiez. C'est qu'il y a quelque chose d'assez fascinant et une corrélation qu'on a faite à force de réflexion et de discussion entre nous. C'est que dans le tango chanté, il y a quelque chose de très proche qu'on retrouve dans la chanson française. Cette idée de un type de chanson, un type de musique qui est proche du texte, qui est proche de la syllabe, qui est proche de la diction, qui phrase énormément, et on retrouve vraiment, et je pense que peut-être tous les trois, Mathias est argentin, mais toutes les deux par exemple, on ne l'est pas, et il y a peut-être quelque chose de culturel qui nous parle dans le tango aussi, parce que finalement la chanson française a beaucoup de liens de parenté avec le tango dans ces aspects-là, ouais. Dans ces aspects presque de parler, chanter parfois.
Dans sa poésie.
Et nous, instrumentalement, ce qu'on va rechercher dans une pièce comme Parce que, qu'il y a dans l'ensemble, dans le disque, c'est quelque chose de proche qu'on pourrait aller chercher sur un tango chanté qu'on joue instrumentalement. C'est comment retrouver ce phrasé de chanson, ce phrasé parlé au travers de l'instrument. Et c'est les mêmes enjeux quand on fait Parce que Soul ou
Marne
ou Nostalgias ou des tangos qu'on réinterprète instrumentalement.
Mais ce qui est aussi intéressant, enfin, continuer sur les influences, je ne sais plus qui c'est un des programmateurs de Jazz à Fib qui le dit, il y a du Mingus, je pense qu'il parle peut-être plus pour le piano dedans, mais on pourrait aussi parler de Gershwin, parler de t'as d'autres comme ça musiciens de jazz et voire même des musiciens entre j'allais dire le jazz contemporain et le free où là on retrouve un peu ces choses-là. Et puis autre chose, comme ça ça fera deux réponses pour le prix d'une. Je trouve que vous avez donné au tango, parce que souvent c'est une musique de danse, donc on imagine le tango comme il faut qu'il soit dansé, il peut pas être écouté entre guillemets, hein. Et vous en avez fait une musique, c'est pour ça que je disais dans la démocratisation, écoutable, écoutée. Moi j'avoue que je me passe en boucle, c'est comme ça que je travaille, que j'essaye de comprendre, de saisir la musique, comment elle me parle, comment elle va faire surgir des émotions qui sont autres d'ailleurs que la nostalgie ou un petit peu cette idée un peu sombre du tango qui au contraire donne des idées d'éveil.
Oui, alors vous parliez de la danse, c'est vrai que nous on propose une musique qui n'est pas destinée à être dansée.
Mais qui pourrait l'être. Hein.
Et pour certains titres, oui, je pense qu'elle pourrait l'être. Et même si sa finalité est l'écoute, et disons le lieu c'est plutôt le concert, il y a tout de même dans ses racines rythmiques un rapport très fort au sol, au pas, à la marche, au rythme. Donc il y a même si elle est destinée à l'écoute, il y a peut-être un reste de quelque chose qui est très corporel, et justement ce qui fait que aussi souvent elle est assez poignante, et c'est quelque chose qu'on renie pas du tout et qui je pense est très présent dans l'album. Il y a deux valses par exemple qui sont des valses très très écrites, assez fournies disons, mais tout de même il y a tout de même
entraînante.
Ouais, il y a tout de même ce rapport ce rapport au corps. Et vous parliez de Gershwin, c'est justement un point de jonction très intéressant entre le jazz et les formations classiques. Retranscrire des influences très fortes du jazz dans des formations classiques. Ouais. Donc tout ça a un lien quelque part, évidemment.
Mais puisqu'on parle des influences, on pourrait parler aussi, je pense, Cole Porter, on pourrait parler même de Nat King Cole. On avait perdu un grand pianiste, parce que c'était quand même un très grand pianiste, pour un crooner, c'est un peu dommage, enfin un bon crooner quand même, quoi. Mais il y a de ça, on parlait de Mingus, mais Monk, on pourrait parler de tous ces gens-là, quoi, qui ont aussi essayé de et voire même, pourquoi pourquoi pas de Coltrane dans cette idée, vous savez, de la note ultime, d'une quête d'une note un peu au-dessus, et voir en allant un peu plus loin de Alice Coltrane pour faire le Jackson ou Ahmad Jamal dans une espèce de musique aussi spirituelle. Il y a cette idée-là quand on parle du baroque, vous voyez, cette musique qui est un peu grandiose, mais qui est aussi une musique de l'esprit, une musique de l'éveil.
Mais excusez-moi, vous opposez ça à la musique dansée ? J'ai pas très bien compris.
Non, ce que je voulais dire, c'est que souvent le tango, on le prend comme une musique dansée.
Oui, mais.
Et donc, on ne s'arrête pas pour l'écouter ou mettre un disque.
Évidemment, mais.
On va essayer de draguer dessus, mais on ne va pas. je plaisante. Mais vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois très bien mais l'itinéraire d'une musique. Partant comme point de départ, comme musique populaire qui va rassembler par exemple les gens autour de la danse ou du chant, et son itinéraire vers une musique plus instrumentale de concert, on peut appeler ça un ennoblissement, ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose de sacré dans les deux cas, et peut-être chacun fait simplement avec les moyens qui sont les siens. Je pense que la musique de tango a toujours été noble, et peut-être aussi parce qu'elle a été le point de rencontre de populations qui étaient en peut-être précaires, comme vous dites, dans une situation peut-être d'exil. Cette chose-là, elle est noble, qu'elle se traduise dans un premier temps par un rapport à la danse. Et puis la primarité du rapport à la danse, c'est quelque chose d'assez d'assez magnifique aussi, en fait. Après, chacun investit le langage
comme
de la
veut.
Façon qui lui semble la plus juste.
Mais ça, c'est presque normal. C'était des musiques après qu'on emmène en Argentine, qui viennent sans doute d'Espagne, là aussi, pour l'Amérique du Sud, ou d'autres influences, d'ailleurs, des rencontres comme ça, et populaires au début, parce que c'est celle qu'on joue, parce qu'il y a les veillées, qu'il n'y a rien, pas rien d'autre à faire, mais il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio à l'époque, il n'y a que le compteur qui raconte et qui peut d'ailleurs même lancer aussi la danse,
je
pense.
Oui, tout à fait. Et c'est peut-être c'est la musique comme lieu et lien social.
Oui.
Et après, ça a pris des formes, justement. Il y a eu plusieurs chemins. Ça a été un chemin.
Non, je suis d'accord. Et qui se l'approprie ?
Exactement. Oui.
Et je crois que quand, entre guillemets, les bourgeois argentins se la sont appropriés en disant ouais, c'est pas une musique quand même si mauvaise, on va pas la laisser à cette valtaille, comme on dirait nos nobles sous Louis XVI, on va la prendre pour nous. Elle a pris donc d'autres notes, et aujourd'hui elle revient un petit peu justement à tout le monde, en fin de compte, montrant que la musique, moi c'est ce que je pense, elle a pas de. Enfin, soit noble ou musique populaire, elle est avant tout quelque chose qu'on écoute, qu'on ressent et qui nous parle, quoi.
Oui.
Et à un moment, on peut bien aimer un morceau de tango ou autre, un nouveau morceau qui on va voir, ça s'est varié, ça part un peu partout, ou un morceau de jazz un peu plus compliqué, puis avoir aussi envie de quelque chose, une chanson de Piaf ou je sais pas quoi.
Justement, à l'image de ce dont vous parlez, l'éclectisme dont vous parlez, on est des amateurs, je pense, de plein de choses différentes, tous les trois, je pense que c'est quelque chose.
Mais qu'est-ce qui vous. Alors, on va commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a nourri pour en venir au piano ? Qu'est-ce que vous a donné envie ? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont dit bon, allez, tu vas devenir pianiste, concertiste, comme ça on va devenir riche, on va acheter un château en Espagne ? Non, je plaisante. Mais est-ce que c'est forcé, ou est-ce que c'est un moment, toute petite, vous dites. Ah, le piano, c'est un instrument que j'ai envie de faire.
Alors
parce que c'est pas facile.
C'est une question très intéressante. On va faire ma petite...
Non, mais allez-y.
De mon côté à moi, il se trouve que j'ai appris le piano dans le cadre familial. Et je suis de formation classique. Et ce qu'il y a d'assez intéressant et assez beau aujourd'hui, c'est que, et je peux le dire en tant qu'adulte aujourd'hui rétrospectivement, c'est que le moment où je crois la musique est devenue une vraie vocation personnelle, il se trouve que ça a été le moment du point de rencontre avec le tango. Voilà, donc...
C'est là où vous vous êtes trouvé.
C'est pour plein de raisons, pour la musique, pour les gens aussi. J'ai plaisir à dire à titre personnel que...
Pour ces deux-là ?
Notamment pour ces deux-là, oui.
Parce que, je dis pas ça, parce que des fois, il y a des trios qui se composent parce qu'on a joué ensemble, ou on s'est rencontrés par-ci, par-là, puis on a envie de jouer. Mais ça va pas plus loin. J'ai l'impression que là, il y a une harmonie qui se fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Il y a une espèce de sensibilité commune qui se rencontre, ce qui n'est pas toujours évident. Ça arrive.
C'est vrai que je commence à en parler, je pense qu'ils vont en parler ensuite, mes collègues. Ce qu'il y a d'un peu magique pour moi dans cette formation-là, au-delà du fait que ce sont des super musiciens et tout, j'ai rarement eu dans une autre formation la sensation vraiment que la personne qui écrit aussi, pas forcément que pour l'instrument, mais pour l'instrumentiste que je suis. Et personnellement, c'est une fabuleuse façon de se sentir à sa place, à sa juste place, je vais dire, dans un groupe. Voilà, je vais leur donner la parole.
Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'allez pas me dire non, c'est trop beau, c'est bien de vous dire.
Comment dire non à ça? Non, mais ce qui est certain, c'est que moi, je m'estime d'avoir une énorme chance de partager ce projet avec Armella et Émilie, parce que quand je me mets à la table et que j'écris et que j'imagine des
morceaux, des solos,
des morceaux, des sonorités, des passages, tout un tas de choses, je me sens jamais
jamais seul.
Jamais seul et jamais j'ai une énorme liberté parce qu'elles sont extraordinaires toutes les deux et que je peux écrire absolument n'importe quoi et je sais qu'elles vont le sublimer de toutes les façons et d'ailleurs c'est arrivé quelques fois où on lit un morceau et je suis ému de voir ce qu'elles
en font.
Elles se moquent de moi d'ailleurs. Ouais.
Ça m'étonne pas, je les sens bien comme ça, un peu moqueuses.
C'est vrai que notre rencontre, on se connaît depuis bien avant le trio en réalité.
Vous n'allez pas me dire tout petit à la maternelle quand même.
Pas depuis la maternelle, mais ça fait bien 15 ans qu'on se connaît.
Ça crée...
Oui, on a partagé pas mal de projets, pas mal d'aventures musicales déjà avant celle-ci. En fait, je crois que c'est apparu comme une évidence de l'envie de jouer ensemble et d'une complicité musicale, mais aussi d'une grande amitié.
Mais ça se sent dans le premier album. En plus, c'est pas vous connaissez depuis longtemps, le groupe existe, je crois, depuis 2023, si j'ai bien lu les renseignements.
Oui, c'est ça, depuis deux ans. Ouais.
Mais on sent cette communion. Mais du coup, quand on écrit, est-ce que vous pensez justement en disant, tiens, parce que je pense qu'elles ont chacune leur phrasé, je crois que ça qu'on dit, leur façon de faire, de jouer, il faut que je pense, elles jouent comme ça, donc là, il faut que mon écriture soit comme ça, pour le bandoneon comme ça, pour le piano comme ça, ou alors pas du tout, hop, et puis après, c'est elles qui vont se le réapproprier.
Alors je pense que c'est difficile à décrire ça, mais je crois que c'est plus imbriqué et difficile à définir que ça. C'est-à-dire que le fait de travailler ensemble et de jouer, de répéter, de voir aussi ce qu'elle propose et ce qu'elle donne d'une proposition aussi nourrit des choses qui sont peut-être inconscientes et qui après vont réapparaître dans d'autres compositions ou d'autres passages ultérieurs. Donc c'est difficile de dire qui de la poule ou de l'œuf. Mais c'est qu'il y a des passages où j'essaie justement de pas trop surcharger la partition pour leur laisser la place. La place qu'elles choisissent elles d'interpréter, donc d'épurer un peu plus pour que justement la liberté de l'interprète se fasse entendre quoi.
Ouais. Mais puisqu'on est sur la composition, là vous étiez pas mal. je précise pour nos auditeurs qui demandent l'accord à ces deux partenaires comme quoi il a été bon. Je remarque quand même qu'elles lui ont fait aucun geste pour le réconforter. Ah là, ça va. Oui, j'en étais du coup. Oui, vous parlez de la sur la composition, etc. Moi, j'ai l'impression, enfin, sur l'album que j'ai, hein, que c'est des compositions simples, légères, pas chargées, voilà. Mais en même temps, très compliquées. Ouais, c'est. Non, mais souvent, on dit, faut comment faire simple en faisant compliqué, je sais plus, enfin, le truc, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je veux dire que c'est. Il n'y a pas ces choses un peu empoulées, ces choses un peu... c'est aussi ces côtés, vous voyez, je sais faire ça, ou même pour dire, oh, tiens, la pianiste, elle sait faire ça, vous voyez, je me la pète bien, quoi, en gros. Non, il y a quelque chose de qui va à l'essentiel, voilà.
Je vous remercie de dire ça, parce que c'est vrai que c'est une grande question. Est-ce que la complexité pour la complexité est une fin en soi dans la musique et dans l'art en général? Je pense que, bon, c'est très personnel, mais je pense que quand c'est pas incarné et quand le message est pas clair, ou on veut pas vraiment dire quelque chose, la complexité peut parfois être vaine.
Oui.
Donc, c'est.
Il faut qu'elle serve.
Oui, c'est faut qu'elle serve un propos, à mon avis. Si la virtuosité pure pour une performance en soi, moi j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, ça ne me touche pas. Ça me touche pas beaucoup. Ce qui m'importe, moi, c'est le message musical. Oui.
Alors, d'accord avec ça.
Ah oui, et je pense que. Ce qui, pour nous, en tant qu'exécutante, enfin, que.
Ouais, je crois pas que vous êtes qu'exécutante. Parce que je pense qu'il y a aussi la façon dont un musicien va se réapproprier un morceau.
Bien entendu, il y a une part de.
Et lui en redonner un plus.
Presque comme parfois de recréation, quelque part, même si c'est pas un très très joli mot. Mais malgré tout, ce qu'écrit Mathias, c'est justement, c'est complexe, mais ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et pour nous, ce qui est vraiment un défi, mais qui, je pense, nous porte et qui fait qu'on est fort attaché à ce trio, c'est que on est mis face à nos démons, parfois avec ce qu'écrit Mathias, parce que c'est fort complexe, c'est extrêmement bien pensé, mais il faut beaucoup de travail pour réussir à le réaliser. Mais ça, en tant qu'interprète, c'est formidable. Ouais. On vit pour ça, pour justement devoir aller plus loin et toujours. Et nous, il est derrière nous et avec un petit tisonnier, il nous oblige à nous pousse dans nos retranchements.
Dans vos retranchements, ouais.
Et après, tout l'enjeu, c'est de faire de la musique avec ça, qu'on ne sente plus la difficulté, qu'on soit juste dans le partage et dans quelque chose de fluide. Et pour nous, je pense que c'est assez formidable comme perspective musicale. Et pour revenir un petit peu aux raisons qui nous ont
réunis,
je pense que par contre, pour pouvoir convoquer ce type de dynamique dans un ensemble, il faut que tout le monde tende vers un même point, une même énergie et un même horizon qui doit sembler impossible. Il faut qu'on ait une sensation
qu'il n'y ait pas d'utopie à atteindre.
Voilà, et qu'il n'y ait pas de plafond de verre. Peut-être qu'il y ait, il y a toujours un plafond de verre dans la vie quelque part, mais en tout cas, il faut qu'on soit tous les trois bercés de l'illusion qu'on peut aller toujours, toujours plus loin et qu'on sera tous assez obsédé, parce qu'il y a une forme de. Parce que quand on répète, parfois on peut être jusqu'à 22h, 23h, ouais. Travailler pendant des heures et des heures.
Reprendre le même morceau.
Et de l'extérieur, on pourrait paraître un petit peu fou. Mais du coup, il faut être en fait juste trois consentants pour faire partie.
Faites attention à ce que vous allez dire. Non, ça rien n'allez pas plus loin.
Non mais voilà, pour participer à tout ça, et ça c'est une grande chance dans la vie d'un musicien, de pouvoir trouver des acolytes qui vont être aussi fous que lui. Et je pense que, bon, moi c'est vraiment quelque chose d'inespéré dans ma vie, et pour lequel je suis fort heureuse de pouvoir trouver ces deux monstrueux musiciens avec qui on pourra toujours imaginer aller plus loin et passer des heures à trouver des solutions, et ça c'est... c'est formidable pour un musicien, quoi.
Ouais. Mais ce que vous me dites là, il y a pas longtemps, un Jazz à Film que j'écoute régulièrement, il passait une, ça avait été enregistré un extrait, je ne sais plus quel grand musicien, qui répétait, et c'est ça. Mais moi, j'en doute pas que vous êtes des grands musiciens, que c'est un grand album.
Alors
et
ça,
du coup, j'attends de voir la suite parce que je me dis jusqu'où ils vont aller. Et après, à chaque fois, je me le pose sur pas mal de, surtout chez les jeunes, on va voir, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la jeune génération, et c'est bien aussi que ça soit vous avec le tango, avec un petit peu le classique, elle bouscule les choses, elle les entraîne vers ailleurs où on ne pensait pas l'écouter. En jazz, les jeunes musiciens font des choses assez patente, ouais. Mélange du répétito avec du jazz, par exemple. Je pense à Jean-Baptiste Herbin avec son Django, où il nous fait au sax de la guitare, enfin des tas de choses. Et vous, c'est ce que vous avez fait avec votre album. Vous l'avez conduit dans quelque chose qui est à la fois du classique, à la fois du tango, parce qu'on entend bien les deux consonances. Au début, parce que bon, on se dit, tiens, c'est des tangos, donc on cherche. Et au bout d'un moment, au deuxième morceau, peut-être même au troisième, on oublie tout ça et on est dans une autre composition, dans un autre genre. C'est du tango, c'est du classique, ça n'a pas d'importance, c'est de la musique.
Bah, vous venez de dire justement quelque chose, exactement ce à quoi je pensais. C'est-à-dire que ce n'est plus ce qui est important. Et d'ailleurs, je pense que, comme disait Émilie, on vient tous, on a plein d'influences et plein d'un bagage musical différent. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on oublie tout ça à la faveur de passer un moment à jouer ensemble et que c'est pas des présupposés. Je pense pas que Mathias, dans son déroulé de pensée, il s'est dit je vais mélanger du tango avec du classique, avec du jazz, avec de la chanson française ou quoi. Non, c'est une résultante. Ouais. Ce qui est important, c'est d'être dans le faire et dans la proposition et dans le processus. Et après, il se trouve que naît un album où on se rend compte qu'on est à la croisée d'une foule d'influences, mais c'est pas quelque chose qui est pensé avant ça. C'est le résultat d'un élan et d'un élan vital et musical qu'il est
et intérieur
est, et intérieur auquel il est formidable de contribuer de participer.
Ouais. Mais je trouve que c'est la première fois où dans un album on sent il y a donc les notes, la musique. Et enfin, ce que met le musicien, son intérieur, son âme, quoi. Et c'est la première fois où j'ai l'impression de le ressentir comme ça.
Bah, ça fait vraiment très plaisir pour le trio. Et ça, encore une fois, c'est des résultats qu'on ne maîtrise pas, mais qui, en tout cas,
c'est
il est fait avec sincérité. C'est pas quelque chose de recherché. On a juste mis notre âme comme autant qu'on pouvait dedans.
Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, on s'oublie complètement de l'intérieur de ce qu'on met dans la musique, c'est-à-dire au-delà de jouer aussi avec tout son être.
Oui. Après, je vous avoue que, enfin, dans mon cas, et peut-être que c'est sûrement pas représentatif de tout le monde. C'est pas forcément une démarche intellectuelle, cette recherche-là, parce qu'elle est justement purement sensitive et sensorielle presque. Et du coup, c'est pas quelque chose, c'est pas une démarche, un processus que je viens convoquer et me dire alors là, il faut vraiment que je vienne parler de l'intérieur. D'ailleurs, quand c'est le cas, qu'on essaye de se mettre dans
un état,
ça ne fonctionne pas du tout. Justement, c'est là où il y a quelque chose qui peut-être nous rend un petit peu addict dans le fait, par exemple, d'être sur scène ou de jouer de la musique en général, c'est qu'on s'oublie et on oublie tout. Mais que c'est pas quelque chose qui fonctionne tout le temps. Nous, c'est notre métier, alors du coup, on doit être sur scène, on doit tout le temps être là et faire le mieux qu'on peut. C'est notre devoir. Mais parfois, ça fonctionne. Parfois, il y a cet oubli qui intervient, qui est là, et la musique est au-delà de nous. Et d'ailleurs, c'est une sensation. C'est le public, il la reçoit ou il la reçoit pas. Hein.
Je pense qu'il la reçoit.
Il n'y a pas la prétention de dire. Mais en tout cas, nous, on peut sortir d'un concert en ne sachant pas. Si c'était bien, si c'était pas bien, si c'était censé, pas censé. Et quelque part, ça n'a pas d'importance. Et ça, c'est les meilleurs concerts. On ne sait pas si c'était... Il y a plus, le jugement n'était pas plus là pour interférer. Mmh. Et ça, c'est des moments de grande liberté. Et je pense qu'on espère tous passer des concerts comme ça, où on oublie tout. On s'oublie, ouais. Nous, on oublie le public, on oublie, il n'y a que la musique qui est là. Ouais,
mais il n'y a même plus rien. C'est pas cet instant, comme dans la méditation, je vais prendre le... où on est... Il n'y a plus de méditants, il n'y a plus de ce qui l'entoure, il n'y a plus rien. Tout est fondu dans une seule et même chose.
Bah, en tout cas, je pense que c'est ce vers quoi nous tendons. Mmh. Et qu'on essaye de convoquer, mais c'est un cheminement qui est purement voilà, sensitif, sensoriel, et qui n'est pas intellectuel.
Ah non, pas du tout.
Ouais. En tout cas, je n'ai pas les capacités, malheureusement, de pouvoir l'appeler ça... de tous mes voeux de mon cerveau et de dire maintenant, on va s'oublier, maintenant, on va passer un super moment avec la musique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile que ça et beaucoup plus insaisissable, et c'est ce qui en fait la beauté aussi.
Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'Alice Coltrane, d'Ahmad Jamal, de tous ces musiciens qui sont vers une musique spirituelle, mais il y en a aussi dans le classique.
Je pense que toutes les musiques, absolument toutes, et d'ailleurs, oui. On parlait des musiques populaires, des musiques non populaires, anoblies, non anoblies, tout ça, c'est justement ce qui est formidable. Il n'y a pas d'hiérarchie dans la musique, bon, à mon sens. Hein.
Non.
Et n'importe quel genre, n'importe quel musicien, et c'est même pas une question, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de lien avec la musique et de sincérité, peut expérimenter ça et peut le vivre. Ça, c'est ça qui est formidable. Mais y a pas, ce n'est pas parce qu'il y a un grand musicien qui va pouvoir faire ça. Non, c'est beaucoup plus impalpable que ça, à mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Disons que peut-être comme dans n'importe quel cas de figure où on se retrouve à être des personnes, des êtres humains qui vont aller sur scène, se faire écouter, se faire applaudir par des gens qui en plus sont payés pour faire ça, c'est y a une question de l'ego qui est présente quelque part. Mais est présente d'une façon qui n'est pas forcément toujours très fluide, ni très saine, ni très simple à gérer. Mais pour ma part, et je pense que pour beaucoup de musiciens, plus le rapport avec notre art et notamment le répertoire ou la musique que l'on joue est sain, fluide, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là. On est là, par exemple, moi, en tant qu'interprète, je suis là avant tout pour...
transmettre quelque chose ou pas ?
Pour faire entendre un répertoire de création. C'est magnifique, en fait. Ça, quelque part, ça résout tellement de ces questions d'ego. Et donc, oui, si cette chose-là est au centre, comme vous le disiez tout à l'heure, si cette chose-là est au centre, alors... ça résout beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes personnels qu'on peut avoir dans nos vies liés à ce truc d'ego qui est d'aller sur scène se faire applaudir, qui est un truc quand même un peu improbable.
Ouais.
L'humanité a vraiment besoin de ça. En tout cas, l'humanité a en tout cas besoin de belle musique. Et c'est peut-être la chose qui doit être au centre.
Et quand l'ego s'oublie.
Comment ?
Quand l'ego s'oublie.
Oui.
Et c'est là où on arrive à ce qu'elle disait. Cet instant où il n'y a plus rien d'autre qu'un ensemble, oui, qui est d'ailleurs même avec le public.
Voilà, oui, exactement. Et peut-être ce que l'on pourrait dire, du coup, ce rien, c'est peut-être justement ce tout, c'est-à-dire cet endroit de connexion avec le public.
Ouais.
Voilà, cette connexion avec l'autre. Et puis ben, finalement, il y a une fusion à travers le partage et on en arrive à ce... Je sais pas,
cet instant de grâce.
Voilà, chargé.
Et quand vous composez, justement, est-ce qu'il y a cette idée d'atteindre à ça avec le morceau qu'on compose, d'atteindre ça avec une fusion avec le public, déjà avec les musiciens, bien entendu, mais aussi avec le public. Est-ce que vous vous dites ça dans votre tête, mon morceau, c'est un morceau qui va éveiller quelque part. C'est un morceau aussi qui va... parfois, la musique, elle nous aide, ça va pas, on met un morceau de musique, on a envie de retrouver un peu de pêche, on met un morceau de musique. Vous voyez, moi, je sais que quand ça va pas, que j'ai besoin d'énergie, je mets un morceau de chant indien ou amérindien, et là, ça repart. Puis bon, des fois, quand j'ai un peu le cafard, je mets de la musique classique, du jazz, et puis ça repart. Et puis, bon, quand je suis trop en joie ou que j'ai envie un petit peu d'être plus méditatif, j'ai un autre morceau. Et est-ce que quand vous composez un morceau, parce que dans les morceaux de l'album, il y a un peu tous les genres. Il y a ceux qu'on peut méditer, il y a ceux qui vont redonner l'énergie, il y a ceux qui vont vous consoler quelque part, vous voyez. Est-ce qu'on y pense ou est-ce qu'on se dit non, je compose et on verra bien ce que ça donne. Et la composition, je dirais, c'est comme le calligraphe, c'est la main qui va faire les notes, c'est quelque chose d'autre.
Alors je vais parler pour ma part, hein, pour quelque chose de très personnel, parce que je pourrais pas dire comment composent d'autres oui. personnes ou écrivent d'autres personnes. Moi je suis très sensible, ou en tout cas je fais très attention quand j'écris à des questions de tension, de détente, de caractère, d'atmosphère, de quel va être comment va être perçu tel passage ou oui j'essaie en tout cas j'essaie de me mettre à la place de l'auditeur une fois que la musique sera
donnée.
Retranscrite donnée oui parce que les caractères sont très importants oui ce que vous disiez de que ce soit très caractérisé tel passage musical ou tel autre après il y a quelque chose la partition suffit pas et la partition fait pas tout en réalité. Le phénomène musical est assez spécial. Cet art vivant qui, en réalité, la musique en tant qu'art ne naît qu'au moment de l'interprétation. La partition ne suffit jamais. C'est un support, c'est juste un canal d'écriture, de fixation d'une idée qui après va être reprise par une autre personne et qui va en faire encore autre chose. C'est à ce moment-là que peut naître ou pas l'acte musical. Et du coup, ce moment de grâce, bah, c'est de toute façon, c'est quelque chose de tellement imprévisible. Et c'est à ça qu'on tend, et c'est pour ces moments qu'on vit qui sont finalement peut-être assez rares. Mais quand ils arrivent, on se dit ah oui,
ouais, ça, c'est, ce, ces moments-là, ça valait le coup.
Oui, c'est ça. qu'on soit sur scène ou qu'on soit dans le public, ça nous arrive.
Oui.
Donc, évidemment, on va écouter beaucoup de musique de. Et oui, ces moments-là, c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est sûr. Voilà.
Ouais. Mais ça change aussi, bon, c'est une question un peu bateau, d'un public à l'autre. Est-ce que à un moment donné, il faut aussi s'adapter au public à la salle? Parfois, elle est un peu plus réticente, donc il va falloir la bousculer ou je sais pas quoi. Donc, on va inverser les morceaux pour qu'elle se chauffe un petit peu. Parfois, elle est là, elle est en pleine harmonie, puis là, ça part tout seul. Est-ce que ça change d'un concert à un autre? Est-ce que le morceau lui-même va changer? C'est-à-dire la façon de le jouer et de l'interpréter?
Ouais, radicalement, radicalement. C'est vrai que le public nous influence énormément parce que c'est un public qui est tout de suite d'emblée, dès le début du concert, très chaud, comme on dit, ou qu'on reçoit une énergie dans des applaudissements ou dans des réactions, ça nous porte énormément, évidemment, en tant qu'interprète. Parce qu'on sent que la musique qu'on propose touche et peut-être émeut ou en tout cas fait réagir et ça nous porte et ça, probablement ça se fait ressentir sur le morceau d'après parce qu'on
ouais.
se sent énergisé.
Et alors peut-être pour terminer j'ai remarqué aussi, j'ai l'impression que c'est un dialogue que vous faites. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas sur tous les morceaux, mais au moins je pense sur une bonne partie de l'album, on a l'impression que c'est comme une conversation qui se fait. Mais tout à coup, la conversation, elle se fonde une seule et même chose. Vous voyez ce que je veux dire? On entend le bandoléon, on entend le piano, on entend le violon, puis ça se parle, ça raconte quelque chose. Des fois, on comprend pas bien ce qu'ils se disent, mais c'est pas grave. Vous voyez? Et que, au bout d'un moment, la conversation, elle disparaît parce que nous, on est dedans.
Ça me fait penser à ce qu'on évoquait à l'instant, c'est de quoi parle la musique, quelque part. Personne ne sait dire de quoi parle la musique. Non. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de Bernstein dans une émission de vulgarisation, dans le bon sens du terme, de transmission au grand public d'œuvres musicales, où il prend un exemple de Strauss et il met une histoire qui raconte l'histoire de Superman par-dessus. et à la fin, il dit et bon, en réalité, cette pièce ne parle pas du tout de Superman.
Non.
Il dit ça au public. Et il dit, mais de quoi parle la musique finalement ? Est-ce que la musique, on peut lui mettre un sens ? Et c'était une manière de dire pour lui, personne ne peut dire de quoi parle la musique. Peut-être ça parle une langue que personne ne comprend, mais qui touche tout le monde. Ces conversations entre nous, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture, justement.
Mais c'est beau, hein, c'est magique, moi, je trouve. Non, mais c'est vrai, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. On entend comme ça, ça se répond, ça n'a pas d'importance d'ailleurs ce que ça se dit.
Oui.
Ça se vit. Moi, je pense que la musique, c'est ça, ça se vit, ça se reçoit, quoi. Et ça parle plus à notre âme qu'à notre. Parce que dès qu'on commence à chercher à comprendre ou pourquoi ceci, pourquoi comment, pour quelle note. Enfin bon, déjà moi, je sais pas très bien les notes, mais au moins pourquoi un arrangement comme ça, pourquoi une reprise ou une façon d'interpréter Aznavour ou ces morceaux comme ça, on perd le fil de quelque chose, on perd la magie et. Après, c'est dur pour la retrouver. Puis, dès qu'on la retrouve, c'est autre chose, quoi. Et puis, en même temps, j'aime bien, moi, réécouter des standards où je pense à bord de je sais plus quoi, l'oiseau noir, je crois. Et où, parfois, on retrouve plein de versions. Et les versions ont des discours différents. Il y a des versions qui vont vous rendre plus triste, d'autres plus gaies, plus, des façons de faire, ou de Brel, ou de autres, quoi. Ou vos interprétations à vous, quoi. Pour ça, je me dis que ça serait intéressant, Brel ou Ferré, par exemple, ou d'autres comme ça. Ça donnerait un autre champ, une autre réponse. Allez-y, Carmela, pour finir.
Non, mais j'acquiesce, parce que moi, c'est vraiment une recherche que je trouve super intéressante de rendre instrumentales des chansons qu'on a à l'intérieur et qu'on a entendues tellement et qui font partie de nos vies et de les retranscrire instrumentalement. Moi, c'est une voie d'exploration que je trouve super passionnante et je pense que certes quand ça devient instrumental nous perdons la beauté du texte,
ouais.
Mais on ne perd pas la beauté de la poésie.
Non.
Et je pense que c'est ça qui cet aspect là qui est fascinant, c'est que certes on ne sait pas de quoi ça parle, mais par contre on entend le discours, on entend la narration, on entend la rhétorique. Et c'est ça qui nous, même dans notre recherche musicale, nous sous-tend notre recherche musicale, c'est de justement construire une narration. Une narration sans mots, une narration sans un sens explicite, mais par contre qui doit être cohérente. Et on doit mener l'auditeur à aller de ce point A à ce point B et le mener par nos inflexions, par nos logiques de tension, de détente, à ressentir justement qu'il a été emmené et qu'il a été obligé d'aller dans une direction. On lui suggère tout, on oblige quelque part l'auditeur à aller dans notre direction.
Ouais.
Et ça, c'est une recherche qui est infinie, qui fait beaucoup sens quand on reprend de la chanson instrumentale, enfin, et qu'on la rend instrumentale, mais qui sous-tend n'importe quel discours musical qu'on va élaborer.
Mais même dans la chanson, des fois, on a les paroles. C'est-à-dire que dans notre tête, elle a tellement été chantée,
oui,
des fois, et parfois même à notre façon. Parce que des fois, on a tendance, moi beaucoup, à essayer, je pense à dissexer ou quoi, mais à réinterpréter un peu les choses. Et c'est notre chanson, tout à coup, qu'elle a interprété. C'est bien quand même. Et quand on regarde les paroles, ah bah merde, c'est pas du tout ça. Alors, pour terminer, le prochain disque, dans un an, dans deux ans, ça met longtemps à, j'allais dire, à mûrir. On va être impatients.
Nous aussi, on est impatientes. Ouais. Maintenant, tout dépend de la plume magique du trio.
Eh ben, il va falloir se mettre à écrire, si je comprends bien.
Ouais, vous n'avez pas le choix, là. Non, puis je pense que vous allez apporter quelque chose de neuf à la musique. Il faudra demander à d'autres musiciens, mais je pense que y a quelque chose de nouveau qui est là. Un peu comme Farouk Jazz, vous voyez, bah, c'est toujours chez Ariel. Il bouscule ce qui est déjà fait, il s'emmène vers ailleurs. Et vous, c'est tout à coup, on découvre un nouveau paysage. Ça, c'est intéressant, c'est passionnant. Alors, du coup, l'écriture, c'est quoi? C'est bucolique ou c'est urbain? C'est-à-dire, c'est dans vos balades quand vous êtes là? Ou alors, il faut la campagne, les petits oiseaux
Ah, pour moi, c'est urbain. Pour moi, mais c'est mon.
Oui, oui, non,
très personnel.
Je.
Oui, oui.
Alors, peut-être le mot de la fin. Non, vous voulez pas. Allez-y. Un petit mot.
Je faisais une toute petite boutade à Mathias parce que il vient de dire que c'était donc plutôt
urbain
que bucolique. Mais on rigolait avec Carmela parce que quelque part, c'est peut-être pas la question concernant Mathias. On sait que le processus d'écriture est quelque chose de très engageant et sollicitant émotionnellement. Et donc, je disais juste, c'est en colère en tout cas.
Voilà. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, toutes les deux, pas envie à un moment de passer aussi à la composition? Ou c'est trop tôt, ou c'est... Je suis sûr qu'il y a des petites ritournelles dans votre tête.
Pour ma part, non. Par contre, prolonger et questionner en profondeur ce que peut être l'interprétation avec ce que ça peut avoir de possibilités infinies, justement, ça m'intéresse. Mais je suis très, très, très heureuse et comblée de défendre les textes des musiciens que j'aime. Je vais laisser Carmela.
Carmela.